À cette époque, le baseball se jouait comme il se devait. Par de belles après-midi ensoleillées, au début de l'automne, quand on se sent encore en été. Les badauds se rassemblaient devant chez Benton Électroménager dans la ville basse pour regarder les matchs sur trois téléviseurs Zénith de 55 cm exposés en vitrine. Au-dessus, un placard publicitaire suggérait « Pourquoi rester debout dans la rue quand on peut être assis chez soi ? Facilité de paiement ?» Ah ouais, facilité de paiement. Ça ressemblait plus à l'Amérique que je connaissais. Le 1er octobre, Milwaukee battit les Yankees 1-0 grâce à Warren Spahn. Le 2, Milwaukee enterrait les Bombers 13-5. Le 4, quand la série se joua de nouveau dans le Bronx, Don Larsen aplatit Milwaukee 4-0. Grâce au lanceur de relève Ryan Duren, qui n'avait aucune idée de l'endroit où partait sa balle une fois qu'elle avait quitté sa main, ce qui naturellement faisait flipper à mort tous les batteurs qui se retrouvaient face à lui. En d'autres termes, le stopper parfait. J'ai suivi la première partie du match chez moi à la radio, puis j'ai rejoint la foule devant chez Benton pour les derniers tours de batte. Le match terminé, je suis allé au drugstore d'en face et j'ai acheté du caopectate, probablement la même bouteille format familial que lors de ma précédente visite. Mr. Keane me demanda de la même manière si je souffrais du virus saisonnier. Et quand je lui dis que je me sentais bien, le vieux salopard a eu l'air déçu. Je me sentais bien. Et je ne m'attendais pas à ce que le passé me renvoie les mêmes balles rapides à la reine de Rennes, mais je préférais être paré. En sortant, mon regard fut attiré par un présentoir surmonté d'une accroche publicitaire. « Ramenez un peu du Maine chez vous. » Il y avait des cartes postales, des homards gonflables, des petits sacs en tissu odorant remplis d'aiguilles de pin, des statuettes de Paul Bunyan le bûcheron et des petits coussins décoratifs à l'effigie du château d'eau de Derry. J'ai opté pour un coussin. « Pour mon neveu en Oklahoma !» j'ai dit au vieux Keane. Au moment où je suis entré dans la station Texaco de Harris Avenue, les Yankees avaient bel et bien remporté le troisième match de leur série. Le panneau en face des pompes à essence disait « Mécanique 7 jours sur 7. Confiez votre voiture à l'homme qui porte l'étoile. » Pendant que le pompiste remplissait le réservoir de la Sunliner et nettoyait mon pare-brise, je suis allé faire un tour dans l'atelier, où j'ai trouvé un mécano du nom de Randy Baker, avec qui j'ai marchandé un peu. Baker s'est montré perplexe, mais favorable à ma proposition. 20 dollars changèrent de main. Il me donna le numéro de la station et son numéro personnel. Je repartis avec le plein, le pare-brise propre et l'esprit léger. Enfin, relativement léger. Car il était impossible de tout envisager. En raison de mes préparatifs pour le lendemain, je suis passé au Lamplighter pour ma bière quotidienne plus tard que d'habitude, mais il n'y avait aucun risque que je rencontre Friend Dunning. C'était le jour où il emmenait ses enfants voir le match de football à Orono. Au retour, il s'arrêterait au 95er pour manger des palourdes frites et déguster des milkshakes. Au bar, Chas Fratty sirotait un whisky. Vous avez intérêt à prier pour les Braves demain, ou vous pouvez dire adieu à vos 500 billets, me dit-il. Ils allaient gagner. Mais pour l'heure, j'avais de plus gros projets en tête. Je resterai à Derry suffisamment longtemps pour collecter mes 3000 dollars auprès de Fratty. Mais j'avais l'intention de boucler le gros de l'affaire dès le lendemain. Si les choses se passaient comme prévu, j'en aurais fini avec Derry avant même que Milwaukee ne marque ce qui s'avérerait le seul point qu'il lui faudrait à la sixième manche. « Eh bien, j'ai dit en commandant une bière et des miettes de homard frits, qui vivra verra, pas vrai ?»« C'est ça, cousin. C'est les joies du pari. »« Tu permets que je te pose une question ?»« Bah allez-y. Tant que vous le prenez pas mal si je vous réponds pas. » C'est ça que j'aime chez toi, cousin, ce sens de l'humour. Ça doit venir du Wisconsin. Non, en fait, je serais curieux de savoir ce qui t'amène dans notre bonne ville de Derry. L'immobilier ? Je pensais vous l'avoir dit. Il se rapprocha. Je flairais la Vitalis dans ses cheveux gominés et le Sen-Sen dans son haleine. Et si moi, je te disais « implantation possible d'une galerie marchande », tu dirais « bingo » ? Nous avons donc bavardé un moment, mais vous connaissez déjà cette partie de l'histoire. J'ai dit que j'évitais le Lamplighter aux heures où je pensais que Frank Dunning pouvait s'y trouver, parce que je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir à son sujet. Mais c'est pas toute la vérité. Il faut que ce soit clair entre nous, sinon vous ne comprendrez jamais pourquoi j'ai agi comme je l'ai fait au Texas. Imaginez que vous entriez dans une pièce et que là, sur la table, se dresse un château de cartes élaboré sur plusieurs étages. Votre mission est de le renverser. Si ce n'était que ça, me direz-vous, ce serait facile. Il suffirait de taper du pied ou de souffler un bon coup, comme pour éteindre vos bougies d'anniversaire, et le tour serait joué. Mais ce n'est pas tout. Le truc, c'est que vous devez démolir le château de cartes à un moment bien précis, et que jusque-là, il doit rester debout. Je savais où se trouverait Frank Dunning le dimanche 5 octobre 1958, et je ne voulais pas risquer de changer d'un iota le cours de sa journée. Ne serait-ce que croiser son regard au Lamplighter pouvait avoir cet effet. Vous avez beau ricaner et me trouver précautionneux à l'excès, beau dire qu'un détail aussi dérisoire a peu de chances de modifier le cours des événements. Mais le passé est aussi fragile qu'une aile de papillon. Ou qu'un château de cartes. J'étais revenu à Derry pour démolir le château de cartes de Frank Dunning. Mais jusque-là, je devais le protéger. J'ai souhaité une bonne nuit à Chas Fratty et je suis rentré au bercail. Mon flacon de caopectate était dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain et mon nouveau coussin souvenir avec le château d'eau brodé dessus en fil doré m'attendait sur la table de la cuisine. J'ai pris un couteau dans le tiroir à couvert, découpé soigneusement la housse en diagonale et fourré mon revolver à l'intérieur en l'enfonçant bien dans le rembourrage. J'étais pas sûr d'arriver à dormir, mais finalement j'ai dormi et à point fermé. Fais de ton mieux et Dieu fera le reste, n'est qu'un des nombreux slogans que Christie ramenait de ses réunions des AA. J'ignore si Dieu existe ou non. En ce qui concerne Jake Epping, le jury n'a toujours pas rendu sa décision. Mais quand je suis allé me coucher ce soir-là, j'étais convaincu d'avoir agi de mon mieux. Tout ce qui me restait à faire maintenant, c'était de me reposer, en espérant que ce mieux suffirait. Pas de grippe intestinale à l'horizon cette fois. Mais je me suis réveillé avec le mal de tête le plus carabiné de toute ma vie. Une migraine, ai-je supposé. Je n'en étais pas vraiment sûr, puisque je n'en avais jamais eu. Regardez même une lueur diffuse déclencher sous mon crâne un grondement sourd qui se propageait de ma nuque à la base de mes sinus et me donnait envie de vomir. Mes yeux débordaient de larmes absurdes. Je me suis levé, même ça c'était douloureux. J'ai mis des lunettes de soleil bon marché que j'avais achetées lors de mon excursion dans le nord de Derry et avalé 5 aspirines. Elles m'ont soulagé juste assez pour que je m'habille et enfile mon pardessus. J'en aurais besoin aujourd'hui. La matinée était froide et grise, la pluie menaçait. En un sens, c'était mieux. Je suis pas sûr que j'aurais pu survivre à un grand soleil. J'avais besoin de me raser, mais j'ai abandonné l'idée. Si je restais debout sous une lumière vive, reflétée en un deuxième exemplaire dans le miroir de la salle de bain, mon cerveau risquait tout bonnement de se désintégrer. Je ne voyais pas comment j'allais venir à bout de cette journée, alors j'ai pas essayé de me l'imaginer. Un pas après l'autre, je me suis dit en descendant lentement les escaliers. Je me cramponnais à la rampe d'une main et au coussin souvenir de l'autre. Je devais avoir l'air d'un enfant trop grand avec un ours en pluche. Un pas après l'eau. La rampe céda. Je suis parti en avant, mes tempes palpitant, mes mains s'agitant frénétiquement en l'air. J'ai lâché le coussin. Le revolver à l'intérieur a cliqueté et griffé le mur au-dessus de ma tête. Quelques secondes avant que ma perte d'équilibre se transforme en chute fracassante, mes doigts ont agrippé l'une des vieilles appliques murales ringardes vissées dans le plâtre. Elle s'est détachée, mais le fil électrique a tenu assez longtemps pour que je reprenne mon équilibre. Je me suis assis sur les marches, ma tête bourdonnante posée sur mes genoux. La douleur palpitait au même rythme que les battements de marteau-piqueur de mon cœur. Mes yeux noyés de larmes semblaient trop gros pour leurs orbites. Si je vous disais que je n'avais qu'une envie, ramper jusqu'à mon appartement et tout abandonner, je ne serais pas honnête. La vérité, c'est que j'avais envie de mourir, là, sur les escaliers, et d'en avoir fini avec tout ça. Y a-t-il des gens qui souffrent de pareils maux de tête, non pas juste épisodiquement, mais fréquemment ? Si oui, que Dieu leur vienne en aide. Une seule chose pouvait me pousser à me relever, et j'ai forcé mon cerveau agonisant non seulement à y penser, mais à le visualiser. Le visage de Touga Dunning soudain effacé alors qu'il rampait vers moi, ses cheveux et sa cervelle projetés en l'air. « D'accord, » j'ai dit. « D'accord. Ouais. D'accord. » J'ai ramassé le coussin souvenir et titubé jusqu'au bas de l'escalier. J'ai émergé sous un ciel plombé qui m'a paru aussi aveuglant qu'un ciel d'après-midi au Sahara. J'ai fouillé mes poches pour trouver mes clés. Elles n'y étaient pas. À la place, il y avait un gros trou dans ma poche de devant. Ce trou n'y était pas la veille, j'en étais quasiment sûr. J'ai fait demi-tour à petits pas saccadés. Mes clés gisaient sur le perron, au milieu d'une poignée de monnaie éparpillée. Je me suis penché, grimaçant lorsqu'un poids en plomb glissa vers l'avant de ma tête. J'ai ramassé mes clés et réussi à rejoindre la Sunliner. Mais quand j'ai voulu mettre le contact, ma fidèle Ford a refusé de démarrer. Le solénoïde a émis un clic, puis silence. Je m'étais préparé à cette éventualité. Ce que je n'avais pas prévu, c'était de devoir à nouveau hisser ma tête irradiée au sommet des escaliers. Jamais de ma vie, je n'ai regretté aussi amèrement mon Nokia. Grâce à lui, j'aurais pu donner un coup de fil sans bouger de mon siège et attendre tranquillement l'arrivée de Randy Baker. J'ignore comment j'ai réussi à remonter les escaliers, repassant devant la rampe cassée et l'applique pendouillant du plâtre arraché comme une tête sans vie au bout d'un coup brisé. Pas de réponse à la station-service. On était dimanche et il était tôt. J'ai donc essayé d'appeler Baker chez lui. Il est mort, c'est sûr, ai-je pensé. Foudroyé par une crise cardiaque en plein milieu de la nuit. Tué par le passé tenace, avec Jake Epping pour complice non encore inculpé. Non, mon mécano n'était pas mort. Il répondit à la deuxième sonnerie d'une voix ensommeillée, et quand je lui ai annoncé que ma voiture était en panne, il a posé la question logique. « Comment le saviez-vous hier ?»« Oh, j'ai le flair pour ces choses-là, » je lui ai répondu. « Ramenez-vous le plus vite possible, d'accord ? Il y aura un petit extra pour vous si vous arrivez à la faire démarrer. » Quand Baker eut replacé le câble de la batterie, qui s'était mystérieusement détaché pendant la nuit, peut-être en même temps que le trou apparaissait dans la poche de mon pantalon, et que la Sunliner refusa toujours de démarrer, il vérifia les bougies et en trouva deux méchamment corrodées. Il en avait en réserve dans sa boîte à outils et quand il les eut remplacées, ma charrette revint à la vie dans un grondement.
« Oh, ça ne me regarde sûrement pas, mais le seul endroit où vous devriez aller, c'est au lit, mon pote, ou chez le docteur. Vous êtes aussi pâle qu'un fantôme.
Oh, »« C'est juste une migraine. Ça ira. Allons voir dans le coffre, j'aimerais vérifier la roue de secours.
Nous avons vérifié la roue de secours à plat. Je l'ai suivi jusqu'à la station Texaco sous un crachin fin et incessant. Les voitures venant en sens inverse avaient les phares allumés. Et même avec mes lunettes de soleil, j'avais l'impression que chaque faisceau lumineux me vrillait un trou dans la cervelle. Baker ouvrit le garage et essaya de regonfler la roue de secours. Impossible. Elle recrachait l'air par une bonne douzaine de fissures aussi fines que des pores de la peau.
« Hum !» dit-il. « Jamais vu ça. Le pneu doit être défectueux.
« Remplacez-le, » ai-je demandé. Je suis allé derrière le garage pendant qu'il travaillait. Je supportais pas le bruit du compresseur. Je me suis appuyé contre le mur en parpaing et j'ai levé la tête, laissant la bruine froide me rafraîchir le visage. Un pas après l'autre, je me répétais. Un pas après l'autre. Quand j'ai voulu payer Randy Baker, il refusa.
« Vous m'avez déjà donné la moitié d'une semaine de paye. Oh, je serais un chien de vous en réclamer davantage. J'ai juste peur que vous partiez dans le décor, voyez.
C'est si important que ça ?»«
Un proche malade. Mon vieux, vous aussi vous êtes malade. »
Ça, je pouvais pas le nier.